L'hommage et le parjure.
Fils de roi ne saurait s'agenouiller devant fils de comte. Cette formule, c'était un souverain de 16 ans qui, tout seul, l'avait trouvé et imposé à ses conseillers pour qu'eux-mêmes l'imposassent aux légistes de France. « Voyons, monseigneur Orleton, avait dit le jeune Édouard III en arrivant à Amiens, l'an passé, vous étiez ici pour soutenir que j'avais plus de droits au trône de France que mon cousin Valois, et vous accepteriez à présent que je me jette à terre devant lui ?» Peut-être parce qu'il avait souffert pendant son enfance d'assister au désordre dû à l'indécision et à la faiblesse de son père, Édouard III, pour la première fois qu'il était livré à lui-même, voulait qu'on revînt à des principes clairs et sains. Et pendant ces 6 jours passés à Amiens, il avait tout fait remettre en cause. « Mais Lord Mortimer tient beaucoup à la paix avec la France, disait John Maltravers. « My Lord Sénéchal, l'interrompait Édouard, vous êtes ici pour me garder, je pense, non pour me commander. » Il éprouvait une aversion mal déguisée pour le baron à longue figure qui avait été le geôlier et bien certainement l'assassin d'Édouard II. D'avoir à subir la surveillance et même pour mieux dire l'espionnage de Maltravers, indisposait fort le jeune souverain, qui reprenait « Lord Mortimer est notre grand ami, mais il n'est pas le roi, et ce n'est point lui qui va rendre l'hommage. Et le comte de Lancastre qui préside le conseil de régence, et seul de ce fait peut prendre décision en mon nom, ne m'a point instruit avant mon départ de rendre indistinctement n'importe quelle sorte d'hommage. Je ne rendrai point l'hommage lige. » L'évêque de Lincoln, Henry de Burghersh, chancelier d'Angleterre, lui aussi du parti Mortimer, mais moins inféodé que ne l'était Maltravers, et de plus brillant esprit, ne pouvait, en dépit du tracas causé, qu'approuver ce souci du jeune roi, de défendre sa dignité, en même temps que les intérêts de son royaume. Car non seulement le mage lige obligeait le vassal à se présenter sans armes ni couronne, mais encore il impliquait, par le serment prononcé à genoux, que le vassal devenait par premier devoir l'homme de son suzerain. « Par premier devoir, » insistait Édouard. « Ah donc, mes lords, qu'il survenait, tandis que nous avons guerre en Écosse, que le roi de France me veuille requérir pour sa guerre à lui, en Flandre, en Lombardie ou ailleurs, je devrais tout quitter pour venir le joindre, faute de quoi il aurait droit de saisir mon duché, cela ne se peut !» Un des barons de l'escorte, Lord Montagu, fut saisi d'une grande admiration pour un prince qui faisait montre d'une sagesse si précoce et d'une non moins précoce fermeté. Montagu avait 28 ans. « Je pense que nous allons avoir un bon roi, » déclarait-il. « J'ai plaisir à le servir. » Désormais, on le vit toujours auprès d'Édouard III, lui fournissant conseil et appui. Et finalement, le roi de 16 ans l'avait emporté. Les conseillers de Philippe de Valois, eux aussi, voulaient la paix et surtout qu'on en finît avec ces discussions. L'essentiel n'était-il pas que le roi d'Angleterre fût venu? On n'avait pas assemblé le royaume et la moitié de l'Europe pour que l'entrevue se soldât par un échec. « Soit qu'il rende l'hommage simple, » avait dit Philippe VI à son chancelier, « comme s'il ne s'était agi que de régler une figure de danse ou une entrée en tournoi. Je lui donne raison. À sa place, je ferai sans doute de même. » C'est pourquoi, dans la cathédrale emplie de seigneurs jusqu'au plus profond des chapelles latérales, Édouard III s'avançait à présent, l'épée au flanc, le manteau brodé de lions tombant à longs plis sur ses épaules et ses cils blonds baissés sous la couronne. L'émotion ajoutait à la pâleur habituelle de son visage. Son extrême jeunesse était plus frappante sous ses lourds ornements. Il y eut un moment où toutes les femmes dans l'assistance, le cœur étreint de tendresse, furent amoureuses de lui. 2 évêques et 10 barons le suivaient. Le roi de France, en manteau semé de lys, était assis dans le chœur, un peu plus haut que les autres rois, reines et princes souverains qui l'entouraient, et formait comme une pyramide de couronne. Il se leva, majestueux et courtois, pour accueillir son vassal, qui s'arrêta à 3 pas de lui. Un grand ray de soleil, traversant les vitraux, venait les toucher comme une épée céleste. Messire Mils de Noyers, chambellan, maître au Parlement et maître à la chambre aux deniers, se détacha des pairs et grands officiers et se plaça entre les 2 souverains. C'était un homme d'une 60aine d'années au visage sérieux, et que ni son office ni ses vêtements d'apparat ne semblaient impressionner. D'une voix forte et bien posée, il dit « Sire Édouard, le roi notre maître et puissant seigneur n'entend point vous recevoir ici pour toutes les choses qu'il tient et se doit de tenir en Gascogne et en Agenais comme les tenait et devait tenir le roi Charles IV et qui ne sont point contenus dans le mage. » Alors Henri le Burgersh, chancelier d'Édouard, s'approcha pour faire pendant à Mils de Noyers et répondit « Sire Philippe, notre maître et seigneur le roi d'Angleterre, ou tout autre pour lui et par lui, n'entend renoncer à nul droit qu'il doit avoir en la duché de Guyenne et ses appartenances, et entend qu'aucun droit nouveau ne soit par cet hommage acquis au roi de France. » Telles étaient les formules de compromis ambiguës à souhait sur lesquelles on s'était mis d'accord et qui, ne précisant rien, ne réglaient rien. Chaque mot comportait un sous-entendu.